Notre aventure prit naissance à la piscine de Blenheim entre deux baignades. Nous avions pour habitude de nous allonger sur le sable pour respirer l'air chaud et nous imprégner de soleil. Mon ami Roscoe était un yachtman et moi j'avais quelque peu bourlingué sur mer. Inévitablement, nous en arrivâmes à parler bateau. Ce jour-là, la conversation roulait sur les voiliers, leur possibilité de naviguer en plein océan. Et nous citions en exemple le capitaine Slocum qui, en 3 ans, avait fait le tour du monde sur le Spray. Après tout, qui nous empêchait d'en faire autant dans une embarcation de 40 pieds? En fin de compte, nous décrétâmes que rien ne nous procurerait autant de joie que d'entreprendre par les croisières. Alors qu'attendons-nous? Dis-je en manière de plaisanterie. Puis je demandai discrètement son opinion à ma femme, Charmaine. Elle me répondit que ce rêve lui semblait trop beau pour être vrai. Lorsque nous nous étendîmes sur le bord de la piscine pour prendre un autre bain de soleil, je déclarai à Roscoe, à brûle pour point, eh bien allons-y. Voilà comment fut décidée notre croisière. Et aussitôt commença la mise en chantier du Snark. Nous le baptisâmes ainsi, faute de mieux. Cela dit pour ceux de l'électeur qui croiraient qu'il discernait quelques mystères. L'être qui vit est celui qui sort vainqueur de la vie, et cette victoire continuelle lui est aussi nécessaire que l'air respiré par ses narines. Mener à bien une tâche ardue, c'est s'accoutumer à une ambiance hostile. Plus l'acte comporte de difficultés, plus grande sera la joie du triomphe. Tel est l'état d'esprit de l'homme qui va s'élancer du tremplin dans la piscine et après un coup d'œil en arrière, fonce dans l'eau la tête à première. Dès que le nageur quitte le tremplin, son environnement devient féroce. Et féroce le châtiment infligé s'il manque son coup et frappe l'eau à plat. Bien sûr, rien ne l'oblige à courir ce risque. Libre à lui de se prélasser au bord de l'eau et de jouir de l'air estival, du soleil et de la terre ferme. Mais ce plongeur ne le conçoit pas ainsi. En cet instant rapide où il traverse l'air, il vit avec une intensité qu'il ne connaîtrait jamais s'il se contentait de rester allongé sur la berge. Quant à moi, j'aime mieux être ce sportif plutôt que le badaud couché sur l'herbe en train de regarder. Voilà pourquoi je construis le snack. Je suis ainsi fait. Tel est mon bon plaisir, voilà tout. Ce voyage autour du monde représente pour moi des heures sublimes. Veuillez me suivre et examiner un instant la situation avec moi. Me voici, chétif animal appelé homme. Un peu de matière animée, 165 livres de chair et d'os, de nerfs, de tendons et de cerveau. Tout cela doux et tendre, vulnérable et fragile. Si du revers de la main je frappe un coup sur le nez d'un cheval rétif, un os de ma main se brise. Je plonge la tête sous l'eau pendant 5 minutes, et me voilà noyé. Je tombe de 20 pieds dans l'air et je suis fracassé. Je suis un être soumis aux moindres variations climatiques. Quelques degrés au-dessous de zéro, mes oreilles, mes doigts, mes orteils noircissent et se détachent. Quelques degrés au-dessus, des ampoules se forment sur ma peau qui se recroquevillent et se séparent de la chair à vif. Quelques autres degrés de froid ou de chaud et la vie et la lumière s'évanouissent de mon être. Une goutte de poison injectée dans mon organisme par un reptile et tout mouvement s'arrête en moi. Pour toujours, je cesse de remuer. Un éclat de plomb pénètre dans mon crâne et me voilà définitivement plongé dans la nuit éternelle. Faible et fragile, un brin de vie palpitante, voilà tout ce que je suis. Autour de moi vont les grandes forces naturelles, menaces colossales, titans de destruction, monstres dénués de sentiments, qui ont autant d'égards pour moi que j'en ai pour le grain de sable que j'écrase sous mon pied. Ils ne me connaissent pas, ils sont inconscients, impitoyables, amoureux. Ces monstres se nomment les cyclones et les tornades, les éclairs, le tonnerre, les marées, les contre-courants sous-marins et les trombes, les grands tourbillons, les tremblements de terre et les volcans, les flots qui heurtent avec fracas la côte hérissée de récifs et les lames qui bondissent par-dessus les sabots des grands navires, réduisant les hommes en bouillies ou les projetant dans la mer. Aucun de ces monstres déchaînés ne connaît la frêle créature, toute de nerfs et de faiblesse, que les hommes appellent Jack London, et qui elle-même se croit quelque chose, voire un être supérieur. Dans le chaos et le conflit de tous ces titans, dans le labyrinthe de péril dont ils m'enveloppent, je dois me frayer un chemin précaire. Le peu de vie qui m'anime exultera en triomphant d'eux et se croira des séances divines. Il est bon de chevaucher à tempête et de s'imaginer être un lieu. Je ne crains pas d'affirmer ceci. Un atome de gelée palpitant qui se sent l'égal d'un dieu éprouve plus d'orgueil que ce dieu prenant lui-même conscience de sa divinité. Nous allons affronter les mers, les vents, les vagues du monde entier. Le milieu sera féroce, l'adaptation difficile, mais c'est le but atteint qui comblera de joie la petite vanité vacillante qui est moi-même. J'aime, je suis ainsi fait. C'est ma forme particulière de vanité. Voilà tout. Le voyage du snack se présente aussi sous un autre aspect. Je brûle de tout connaître, mais l'univers est grand. Nous avons bien tracé l'itinéraire de notre route, mais nous n'avons arrêté qu'un point. Notre première escale sera Honolulu. Au-delà de quelques vagues généralités, nous ne savons pas où nous relâcherons après Hawaï. Au cours du voyage, il sera toujours temps de prendre des décisions. En principe, nous vagabonderons à travers les mers du Sud. Visiterons Samoa, la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie, l'Australie, la Nouvelle-Guinée, Bornéo et Sumatra, et continuerons par les Philippines jusqu'au Japon. Ensuite viendront la Corée, la Chine, l'Inde, la mer Rouge et la Méditerranée. Après quoi, nos projets leur deviennent trop confus pour que j'en parle. Une chose est certaine, cependant, nous comptons faire un séjour d'un à plusieurs mois dans chaque pays d'Europe. Nous comptons faire beaucoup de navigation intérieure. Les dimensions restreintes du SNAP rendent ce projet réalisable. Quand nous pénétrerons dans une terre, nous démâterons notre bateau et recourrons au moteur. Nous irons sur les canaux de Chine et le Yangtze-Kiang. Nous y passons des mois entiers si nous obtenons l'autorisation du gouvernement, seule difficulté à résoudre. Mais si nous la surmontons, rien ne nous empêchera de poursuivre notre voyage à l'intérieur du pays. En arrivant au Nil, nous remonterons ce fleuve. Nous en ferons autant du Danube jusqu'à Vienne, de la Tamise jusqu'à Londres. Nous pourrons remonter la Seine jusqu'à Paris et nous amarrer face au quartier latin entre Notre-Dame et la Morgue. Ou bien nous pourrons quitter la Méditerranée et prendre le Rhône jusqu'à Lyon, entrer dans la Saône, suivre celle-ci jusqu'à la Marne par les canals de Bourgogne. De la Marne, nous voyagerons sur la Seine, puis nous en ressortirons par le Havre. Dans notre traversée de l'Atlantique jusqu'aux États-Unis, nous remonterons également l'Hudson, passerons dans le canal Erie, traverserons les grands lacs, laisserons le lac Michigan à Chicago, gagnerons de là le Mississippi par le fleuve Illinois et le canal qui y est relié, puis nous descendrons le Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Restent ensuite les grands fleuves de l'Amérique du Sud. À notre retour à San Francisco, nous serons forts en géographie. Je ne saurais passer sous silence une supériorité incontestable du snack, son étrave. Aucune vague ne pourrait passer par-dessus. Non seulement cette étrave se moque de la mer, mais elle lui jette une espèce de défi. Et avec cela, ces lignes sont un enchantement pour les yeux. Elle a été construite pour braver les plus fortes tempêtes. Toucher cette étrave, c'est poser la main sur l'aspect cosmique des choses. On devine, en la contemplant, que nous n'avons pas lésiné pour réaliser ce chef-d'œuvre. Et à chaque nouveau retard, à toute dépense nouvelle qui allonge ma liste déjà copieuse, le simple fait de songer à cette merveilleuse étrave m'apporte un réconfort. Le snap est un petit bateau. En prévoyant la coquette somme de 7000 dollars, j'avais été généreux dans mes calculs, minutieusement établi. Comme j'avais bâti des maisons et des granges, je savais par expérience personnelle qu'on dépasse toujours le délai estimatif, j'avais tenu compte d'une marge raisonnable. Or, le SNAP me coûte 30 000 dollars. Ne m'importunez pas de questions, je vous en prie. Je vous dis l'exacte vérité. J'ai moi-même signé les chèques et fait les appels de fonds nécessaires. Aucune explication à fournir là-dessus. C'est l'inconcevable et le monstrueux. Et vous en conviendrez avec moi, je le sais, avant la fin de mon récit. La vie sur mer ne sera pas si monotone que vous le craignez, avait annoncé à mes compagnons de voyage. La mer fourmille de vie. Elle est si peuplée que tous les jours nous verrons du nouveau. À peine aurons-nous franchi le Golden Gate et mis le cap vers le sud que nous rencontrerons les poissons volants. Nous les ferons frire pour le petit déjeuner. Installés sur le beau pré, nous pêcherons des bonites, des dorades et harponnerons des marsouins. Puis il y aura des requins, une infinité de requins. Nous franchîmes en effet le Golden Gate et fîmes la route vers le sud. Nous perdîmes de vue les montagnes de Californie et de jour en jour, la chaleur du soleil augmenta, mais pas de poissons volants, pas de bonites et pas davantage de dorades. L'océan semblait vide. Jamais je n'avais cinglé sur une mer si déserte. Dans ces mêmes latitudes, j'avais toujours jusque-là vu des poissons volants. N'importe, dis-je. Attendons d'avoir dépassé les côtes de la Californie méridionale. Alors là, vous m'en ferez des nouvelles. Nous passâmes devant la Californie méridionale, devant la péninsule de Basse-Californie, devant les côtes du Mexique, de poissons volants, point. Et pas le moindre fretin, aucun animal vivant. Les jours s'écoulaient, l'existence à bord commençait à nous peser. Ne vous inquiétez pas, dis-je encore. Les poissons volants sont suivis par toutes les autres races pour qui ils constituent une véritable profonde. Dès que nous mettrons la main sur eux, nous pêcherons ce que nous voudrons. Pour me diriger sur Hawaï, j'aurais pu faire cap au sud-ouest, mais je continuais à faire route au sud. Je voulais absolument trouver ces poissons volants. Finalement, il arrive un moment où j'aurais dû, pour atteindre le Lulu, faire route à l'ouest. Au lieu de quoi, je continuais droit vers le sud. Ce n'est que vers 19 degrés d'altitude nord que le premier d'entre eux daigna se montrer, absolument seul. C'est d'ailleurs moi qui l'aperçus. Cinq autres perdus, ardents, avaient pendant toutes ces journées fouillé en vain la mer. Ces poissons étaient si rares que nous n'en découvrions aucun autre de toute la semaine. Quant aux dorades, aux bonites, aux marsouins et à toutes les autres hordes vivantes, nous n'en vîmes pas la couleur. Pas même un requin ne vint de sa sinistre nageoire dorsale rompre la surface liquide. Burt faisait tous les jours trempette sous le beau pré, suspendu à la sous-barbe. Il laissait flotter son corps dans l'eau. Chaque fois, l'envie lui prenait de lâcher tout et de nager pour de bon. Je m'évertuais à l'en dissuader, mais j'avais perdu auprès de lui toute autorité. S'il y a des requins, me demandait-il, pourquoi ne se montre-t-il pas ? Je lui affirmais qu'il ne tarderait pas à rappliquer s'il s'avisait de mettre son projet à exécution. Je n'en croyais pas un mot, mais je voulais effrayer Burt. Pendant 2 jours, cette menace produisit son effet. Le 3e jour, le vent tomba complètement. Il fit plutôt chaud. Le Snark filait un nœud. Incapable de se maîtriser davantage, Burt fit un plongeon sous le beau pré. Voyez donc la perversité des événements. Jusque-là, nous avions parcouru 2 milliers de milles sans rencontrer l'ombre d'un requin. 5 minutes après que Burt fut sorti de son bain, nous aperçûmes la nageoire d'un squale qui fendait l'eau et tournait en cercle autour du snare. Ce requin ne présageait rien de bon. Il me tracassait. Mais que faisait-il dans cette mer déserte? Plus j'y pensais, plus sa présence m'intriguait. 2 heures après, le mystère s'éclaircit. Une île apparut à nos yeux. Le requin venait de la côte et non du large. Messager de la terre, il nous avait deviné. 27 jours après notre départ de San Francisco, nous arrivâmes donc à l'île d'Oahu, territoire d'Hawaï. De très bonne heure, ce matin-là, nous contournâmes en dérivant d'Iron Head, le cap du diamant, juste en face de nos yeux. Soudain, l'océan se mit à grouiller de vie. D'étincelantes escadres de poissons volants fendaient l'air. En 5 minutes, nous en comptâmes plus que durant tout notre voyage. D'autres poissons énormes et d'espèces différentes bondissaient de tous côtés, sur l'eau, sur terre, l'agitation régnait. Dans le port, nous voyions les mâts et les cheminées du bateau, les hôtels et les baigneurs le long de la plage de Waikiki, et la fumée qui s'élevait des habitations, accrochée au sommet des pentes volcaniques du Punch Bowl ou du Tantalus. Le remorqueur de la douane, fonçant à toute vitesse sur nous, chassa un gros banc de marsouins qui se réfugia sous notre beau pré et exécuta les plus grotesques quadrigoles. Puis ce fut le tour de la chaloupe du médecin sanitaire qui bondit dans notre direction. Une énorme tortue de mer émergea à la surface et risqua un œil vers nous. Jamais nous n'avions assisté à pareille explosion de vie. Des individus aux visages étranges montaient sur notre pont et partout des voix inconnues se faisaient entendre. On jeta sous nos yeux des journaux du jour même, reproduisant les nouvelles télégraphiques du monde entier. Incidemment, nous y lûmes que le Snark, absolument incapable de tenir la haute mer, avait péri avec son équipage. Tandis que nous lisions cette dépêche, un message sans fil, transmis depuis le sommet de l'Haleakala, annonçait que le Snark était arrivé sain et sauf. Taipi. À l'est, l'île d'Uauka était voilée par une rafale de pluie qui bientôt enveloppa le Snark. Mais notre petite embarcation, son spinnaker gonflé sous la visée du sud-est, ne ralentissait pas pour autant. Le Cap Martin, point extrême au sud de l'île de Makuiva, se trouvait par le travers, et Controller Bay, la vaste baie du contrôleur, apparut tout entière à notre vue quand nous passâmes devant sa vaste entrée où le Sail Rock, le rocher de la voile, ressemblant à s'y méprendre à la voile bivarde d'un bateau de pêche au saumon construit sur la Columbia River, résistait vaillamment aux attaques furieuses de la houle du sud-est. Notre intérêt se porta ensuite sur la topographie de la baie. Nos regards cherchèrent avidement les trois anses qui s'arrêtaient sur celle du milieu où, dans les dernières lueurs du crépuscule, nous distinguâmes les pentes confuses d'une vallée. Combien de fois nous sommes penchés sur la carte pour étudier cette anse spacieuse où aboutissait la vallée de Taipi. Dans mon enfance, j'ai lu un livre d'Herman Melville, Taipi, qui m'a fait rêver de longues heures. Ce n'était pas un rêve pour toi. À cette époque, j'avais déjà résolu qu'une fois grand et fort, j'entreprendrais moi aussi ce voyage à Taipi, quoi qu'il arrivât. Vint ensuite la course effrénée des ans, remplie de mirifiques projets, de nombreux succès et échecs, et me voici maintenant fouillant de regard les contours vaporeux de la vallée de Taipi. Le grain diminua de violence et le snark fendit le rideau de brume. Nous eûmes à peine le temps d'entrevoir devant nous le rocher de la sentinelle autour duquel se brisaient les vagues. À son tour, il fut effacé par la pluie, l'obscurité. Nous nous dirigeâmes droit vers lui, espérant entendre le vacarme des flots et nous en écartèrent. Pour nous orienter, nous ne possédions que la position relevée au compas. Et si nous passions à côté du rocher de la sentinelle, nous manquerions également le port de Taiwai. Il nous faudrait alors lever et prendre la cape pour la nuit. Perspective peu brillante pour des voyageurs lars d'une traversée de 60 jours dans les vastes solitudes du Pacifique. Avides de revoir la terre, de manger des fruits et brûlant d'envie d'admirer la douce vallée de Taiwai. Avançant très lentement, nous sondions, en cherchant des yeux, le fanal rouge fixé sur le fort en ruine qui nous indiquerait notre position pour le mouillage. La brise, légère et trompeuse, soufflait, tantôt à l'ouest, tantôt du nord et de l'ouest, et de tous côtés nous parvenait la calme de grosses lames invisibles. D'énormes falaises nous arrivaient les bêlements des chèvres sauvages et, au-dessus de nos têtes, les premières étoiles apparaissaient confusément dans le ciel tourmenté. Au bout de 2 heures, après avoir parcouru 1 mille dans la baie, nous nous jetâmes l'ancre par 11 brasses de fond. Enfin, nous étions arrivés à Taiwai. Le lendemain, Nous nous étendâmes dans un paysage féerique. Le snark se reposait dans un paisible port au pied d'un vaste amphithéâtre, dont les pentes vertigineuses, couvertes de vignes, semblaient monter directement de la mer. Là-haut, à l'ouest, nous distinguâmes, visible à un certain endroit, la ligne fine d'un sentier. Bientôt, nous descendions à terre et louions des chevaux, mais nous dûmes différer d'un jour notre visite. Après 2 mois passés en mer continuellement pieds nus, sans espace suffisant pour se livrer à l'exercice, on ne saurait en effet se réhabituer tout de suite aux souliers de cuir et à la marche. En outre, la terre devait cesser à nos yeux son infernal roulis avant que nous fussions à même d'escalader comme des chèvres sur nos chevaux les pistes vertigineuses de l'île. Pour nous dégourdir les membres, nous enfourchâmes donc nos bêtes et nous nous enfonçâmes à travers la jungle épaisse. Peu après, nous nous arrêtions devant une véritable idole enduite, couverte de mousse, auprès de laquelle s'étaient donné rendez-vous un trafiquant allemand et un capitaine de bateau norvégien qui discutaient sur son poids et hésitaient à l'acier en deux de crainte de n'en déprécier la valeur. Il l'alardait au sacrilège de coups de couteau pour en éprouver la dureté ou mesurer l'épaisseur de son manteau de mousse. On lui dit également qu'il lui commandait de se lever et de marcher afin de leur épargner la peine de la transporter eux-mêmes. Soudain, 19 canaques balancèrent la statue sur une espèce de châssis en planche et la trimballèrent jusqu'au bateau. Seulement amarrée, nous sous écoutions. Elle doit en ce moment voyager dans le Pacifique Sud, vers le Cap Horn, à la destination de l'Europe, dernier asile des bonnes vieilles idoles, excepté quelques-unes qui se trouvent en Amérique, et une en particulier qui sourit en grimaçant à côté de moi pendant que j'écris ces lignes. Sauf naufrage, ce vieux masque continuera à ricaner quelque part chez moi jusqu'à la mort. De nous deux, c'est lui qui gagnera la partie, car il ira le dernier. Nous assistâmes, en entendant mieux, à un festin où un nommé Taiara Tamari, fils d'un matelot hawaïen et déserteur d'une baleinière, commémorait la mort de sa mère marquisienne. En cet honneur, il avait rôti 14 porcs et invité le village tout entier aux agapes. À notre arrivée, nous fûmes salués par une jeune indigène assise sur un gros rocher. D'une voix chantante, elle proclama que notre présence rehaussait l'état de la fête et répéta d'ailleurs un compliment à chacun des nouveaux venus. À peine étions-nous assis qu'elle changea de ton au grand étonnement de tous les convives. Elle poussait à présent des cris vifs et perçants. Des voix d'hommes lui répondirent d'une certaine distance et leurs clameurs se muèrent en un chant barbare, fleurant le sang et la guerre. Ensuite, nous aperçûmes à travers les chapelles de feuillage une procession de sauvages complètement nus, à l'exception d'un paille de couleur chatoyante qui leur saignait les reins. Ils avançaient à pas lents et émettaient des hurlements de triomphe et d'exaltation. Ils tenaient sur leurs épaules des branches d'arbres auxquelles pendaient de mystérieux fardeaux d'un poids considérable, dissimulés à la vue par des feuilles vertes. C'étaient tout simplement des cochons, d'innocents cochons rôtis à l'approche, mais les porteurs les baladaient dans le camp à l'instar de leurs ancêtres quand autrefois ils promenaient le long cochon avant de le servir à table. Or, le long cochon n'est pas un vulgaire cochon, comme on serait tenté de le croire, mais un euphémisme polynésien pour désigner la chair humaine. À tout moment, la procession, le fils du roi tête faisait halte pour permettre aux porteurs de manifester par des cris tonitruants leur joie de la victoire, leur mépris des ennemis et le désir de les dévorer. Voilà comment Melville assista il y a 2 générations. À l'exhibition des cadavres de guerriers à part, enveloppés dans des feuilles de palmier qu'on transportait au Ti, endroit situé dans l'enceinte des bois sacrés. Une autre fois, toujours au Ti, il avisa un récipient de bois curieusement sculpté et son regard tomba sur les membres épars d'un squelette humain aux ossements encore humides et revêtus çà et là de ses derniers morceaux de chair. Je n'espère pas avoir la chance, en cette époque dégénérée, de voir les indigènes manger du long cochon, mais j'emporte avec moi une calebasse marquisienne, certifiée authentique, de forme oblongue et bizarrement sculptée, dans laquelle a été bu, voilà plus d'un siècle, le sang de deux patrons de bateau. L'un d'eux avait vendu pour neuve à un vieux chef parisien une balayère décrépite qu'il venait de repeindre en blanc. Mais quelques jours après le départ du malhonnête capitaine, cette balayère se brisa en morceaux. Deux ou trois ans plus tard, le sort voulut que le capitaine fît naufrage sur cette même île. Le vieux chef ignorait tout des radés et escomptes commerciaux, mais il possédait un instinct primitif d'équité et une conception non moins primitive de comptabilité naturelle. Pour solder le compte, il dévora l'homme qui l'avait volé. À la fraîcheur de l'eau, nous partîmes pour Tahiti, sur de féroces petits étalons qui claffaient, hélissaient, se mordaient et se battaient entre eux, sans le moindre souci des êtres fragiles qu'ils portaient sur leur dos, ni des galets glissants, des fragments de rochers et des gorges béantes. Nous parcourûmes une infinité de bosquets de cassis, au pollen jaune rempli de guêpes. Et quelles guêpes ! D'énormes insectes de la taille de jeunes serins qui persévèrent en laissant derrière eux un paquet de pattes longues d'au moins 2 pieds. De temps à autre, un cheval se levait tout droit sur ses jambes de devant, envoyait une ruade vers le ciel, puis faisait un énorme bond l'avant. Une de ses guêpes venait d'enfoncer son dard enflammé dans l'épiderme du malheureux coursier, et tous les autres chevaux de caracoler sur le bord du précipice. D'un côté de la piste, le paysage monte tout droit, et de l'autre, il descend à pic. Le seul moyen de sortir consiste à suivre aveuglément le sentier. Comment cette fille de chevaux parvient à se tenir sur ses jambes ? Voilà un véritable miracle. Et pourtant, il s'élance en avant, se bouscule, marche au trot, puis au galop, trébuche, se relève en battant et lance des coups de sabot vers le ciel, chaque fois qu'une guêpe les pique. À tout bout de champ, nous reprenons haleine pour compter nos blessures. Et cela n'arriva pas qu'une fois ou deux, mais à intervalles réguliers. Pourtant, la promenade ne devint jamais monotone. Pour ma part, je sortais de chaque buisson avec la même joie que l'homme qui échappe à une mort soudaine. Croyez-moi, celui qui accomplit le voyage de Taïwané à Tahiti ne connaît pas l'ennui le long du chemin. Enfin, nous nous élevâmes à une hauteur où il n'y avait plus de guêpes. Tout autour de nous, à perte de vue, se dressaient les contre-forts et bréchés de chaînes de montagnes qui lançaient leur sommet dans les nuées. À nos pieds, le snap, tel un jouet minuscule, se tenait sur le calme de la baie de Taïwané. Devant nous, nos regards plongés dans l'échancrure formée sur le rivage par la baie du contrôleur. Comme fume descendue d'environ 1000 pieds, Tahiti se révéla soudain à nos yeux. Mutile était donné d'entrevoir l'espace d'un éclair des jardins du paradis terrestre. Je ne crois pas que cette vue eût ravi davantage, s'exclamait Melville à l'instant où il aperçut cette vallée pour la première fois. Il vit un jardin. Nous, un désert. Où donc étaient les centaines de bocaux d'arbres à pins dont il parle ? Nous n'avons vu qu'une jungle sans fin, deux méchantes huttes de paille et quelques groupes de cocotiers. Nous descendîmes ensuite une piste en zigzag sous une voûte de feuillage où d'énormes papillons voletaient en silence. Nul sauvage tatoué, armé de bourdins et de javelots, ne gardait le sentier, et nous passâmes le cours d'eau à gué en toute liberté. Le tabou sacré et impitoyable ne régnait plus sur cette douce vallée. Et pourtant si, il existait encore. Un nouveau tabou, il est vrai. Car à notre approche, quelques misérables femmes indigènes prononcèrent ce mot d'un air menaçant. C'était des lépreuses. Et l'homme qui nous en avertit souffrait lui-même d'un horrible éléphantiasis. Tous étaient atteints des poumons. La vallée de Tahiti était devenue l'asile de la mort. De la douzaine de survivants de la tribu poussaient à grand-peine les derniers soupirs de la race. Assurément, leurs ancêtres n'avaient pas eu à soutenir cette bataille, car jadis les Taïpéens étaient très robustes, plus forts que les habitants de Ha'apa, plus forts que ceux de Taïwae et que toutes les tribus de Nukaiva. Le mot Taïpi signifiait à l'origine « mangeur de chair humaine ». Mais puisque tous les marquisiens pratiquaient l'anthropophagie, il s'ensuit que les hommes dénommés Taïpéens excellaient particulièrement dans ce domaine. La réputation de cruauté et de bravoure s'étendait non seulement à Lucaïva, mais dans toutes les îles marquises, où le nom de Taïpéen était prononcé avec terreur. Nul ne put les conquérir. Pas même la flotte française qui prit possession des marquises. Autrefois, le capitaine porteur, la frégate Essex, envahit la vallée avec des matelots aidés de 2000 guerriers de la part et Taïwaï. Mais ils rencontrèrent de telles résistances qu'il leur fallut battre en retraite et regagner en rade leur flottille de bateaux et pirogues de guerre. Les explorateurs, sans exception, reconnaissent que de tous les insulaires de mer du Sud, les Marquisiens étaient les plus forts et les plus beaux. Melville a dit d'eux, j'ai été souvent frappé par la vigueur et la beauté de leur corps. La grâce de leur forme surpasse tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Je n'ai pu découvrir une seule difformité dans toute la foule d'indigènes qui assistaient aux réjouissances. Chacun d'eux semblait exempt de ces imperfections qui parfois détruisent l'harmonie d'un corps humain. Mais leur supériorité physique ne consistait pas seulement en une absence de ces mots. Tous eussent pu servir de modèle à un sculpteur. À présent, toute cette force et cette beauté ont disparu, et la vallée de Taïpi sert de refuge à quelques douzaines de pauvres diables affligés de lèpre, d'éléphantiasis et de tuberculose. Melville estimait la population à 2000 âmes, sans compter la petite vallée voisine appelée Oumi. La vie s'en est allée de ce merveilleux jardin au climat si délicieux, si salubre. Non seulement les Taïpéens étaient beaux comme des dieux, mais leur pureté était exemplaire. L'air respiré par eux ne contenait ni les bacilles, ni les germes morbides qui contaminent le nôtre. Dès que les Blancs eurent apporté sur leur bateau ces divers miasmes, les pauvres Taïpéens se rapatinèrent et furent bientôt terrassés par le mal. Quand on approfondit la situation, on en arrive presque à conclure que la race blanche ne prospère que sur la pourriture et le vice. La sélection naturelle en fournit l'explication. Les Blancs descendent de milliers de générations qui ont triomphé des guerres microbiennes. Quand l'un d'eux, à sa naissance, a porté une constitution favorable au développement de ses minuscules adversaires, il ne tardait pas à être enlevé par eux. Seuls ont survécu les individus capables de résistance. Ceux d'entre nous qui vivent en ce moment sont donc les immunisés, les aptes, les mieux constitués pour affronter un monde hostile de micro-organismes. Les pauvres marquisiens n'ont pas subi une telle sélection. Ils n'étaient pas immunisés. Eux qui mangeaient leurs ennemis étaient à leur tour dévorés par des ennemis invisibles et contre lesquels un combat au javelot devenait impossible. D'autre part, s'il y avait eu au début quelques centaines de milliers de marquisiens, il en serait resté un nombre suffisant pour jeter les bases d'une nouvelle race, une race régénérée, si toutefois on peut appeler régénération le fait de se prolonger dans un bain de poison organique. Oumi est une petite vallée séparée de Taïpi par une chaîne de montagnes peu élevées. Nous nous y dirigeâmes quand nous eûmes calmé un peu la foule de nos chevaux. Après une course d'un mille, celui de Warren se prit à faire de la haute école pendant 5 bonnes minutes sur la partie la plus dangereuse de la piste et nous plongea dans la plus folle inquiétude. Chemin faisant, au voisinage de la mer, nous trouvâmes une profusion de noix de coco, d'arbres à pain et de buissons de tarot, et au moins une douzaine de paillotes. Dans l'une d'elles, nous décidâmes de passer la nuit et nous préparâmes aussitôt un festin. Un jeune cochon fut promptement mis à mort. Tandis qu'il rôtissait entre les pierres brûlantes et que les toulées cuisaient à l'étuvée dans du lait de coco, je persuadai l'un de nos cuisiniers de grimper au sommet d'un cocotier extraordinaire, mesurant au moins 125 pieds de haut. L'indigène sauta sur l'arbre, le saisit des deux mains, se plia en deux afin que ses pieds puissent reposer à plat contre le tronc, et arriva d'une seule traite jusqu'en haut, d'où il nous jeta les noix de coco. Assurément, tous ses congénères ne possédaient pas la force physique, ni les poumons de celui-ci, pour accomplir pareille prouesse. Car la plupart toussaient à fond de larmes. Certaines femmes ne cessaient de gémir et de grogner, tellement leurs poumons étaient atteints. Très peu d'entre eux ou d'entre elles étaient des marquisiens pure souche, c'étaient surtout des métis ou des carterons d'origine française, anglaise, danoise ou chinoise. Au milieu, cette apport de sang frais retardait leur prépa, Et ce triste résultat conduisait à se demander si ça en valait la peine. Le festin terminé, nous contemplâmes le lever de la lune sur la vallée de Taïpi. L'air était légèrement imprégné de la laine des fleurs, nuit magique, un silence absolu, sans un souffle de vent de frayeur. Pour ne pas en gâter le charme, nous osions à peine respirer. Affaibli et lointain, nous parvenait le grondement du ressac sur la grève. À défaut de lit, nous nous endormîmes à l'endroit le plus moelleux où nous pûmes nous étendre. À peu de distance, une femme assoupie, haletée, poussait des gémissements, et de toutes parts, dans l'obscurité, montait vers nous la toux incessante des insulaires moribonds. Night and day, this is the day ring. Come when you come off, winter again. Sweating of cold, growing up, growing old, old dying. As we dream about the shores of the dream. L'homme de la nature. Je le rencontrai pour la première fois dans Market Street à San Francisco par l'après-midi humide et pluvieux. Il marchait à longues enjambées, vêtu seulement d'un pantalon qui lui arrivait aux genoux et d'une chemise aux proportions réduites. Ses pieds nus pataugeaient bruyamment sur le pavé boueux. Une vingtaine de gamins surexcités couraient ses trousses. Tout un chacun, et il y avait des milliers de gens, se retournait pour lui jeter un coup d'œil curieux quand il passait. Moi aussi, du reste. Jamais je n'avais vu un aussi curieux spécimen d'homme. Allé de partout, il arborait ce teint velouté que prend un blond lorsque sa peau ne pèle pas. Sa longue tignasse avait des reflets d'or, tout comme sa barbe qui ignorait l'usage du rasoir. Il était de couleur fauve et resplendissait sous le soleil. Un autre prophète, pensais-je, venu pour lancer aux citadins un message qui sauvera le monde. Quelques semaines plus tard, je me trouvais avec des amis dans un bungalow situé sur les montagnes de Piémont qui domine la baie de San Francisco. « Nous le tenons ! Nous le tenons » avouait-il. « Nous l'avons cueilli sur un arbre, mais il commence à s'acclimater. Bientôt, il mangera sa nourriture dans notre main. Venez voir le phénomène !» Je les accompagnais au sommet d'un pic vertigineux, et là, dans une méchante cabane érigée au sein d'un bosquet d'eucalyptus, je reconnus mon prophète à peau basanée. Il arriva tout droit sur nous, comme un tourbillon, en faisant la roue. Il ne nous serra pas la main, se contentant de nous saluer par des tours d'acrobatie. Il exécuta encore plusieurs cabrioles, tordit son corps comme un serpent, et après s'être suffisamment déhanché, se plia en deux, puis, les jambes raides et les genoux rapprochés, il battit du tambour sur le sol avec la paume de ses mains. Je vais vous le faire, ses mains, c'est pas simple. On n'y arrive pas. Voilà. Ensuite, il fit d'autres pirouettes et lança un singe, puis le poisson. Toute la joie de sa vie ardente rayonnait sur son visage et de tout son être s'exhalait l'hymne du bonheur. Les années s'écoulaient. Un matin ensoleillé, le Snark piqua du nez dans une étroite passe entre des récifs battus par les flots et entra lentement dans le port de Papette. Vers nous se dirigeait un bateau arborant un pavillon jaune. Il avait avec lui le médecin du port. Très loin, dans son signal, suivait une minuscule pirogue de course dont l'aspect nous intrigua. Sur cette embarcation flottait un drapeau rouge. Je l'observais longuement avec ma longue vue, craignant qu'il me signale un danger, quelque chose en naufrage ou une balise flottant à la dérive. À ce moment, le médecin nous parla d'homme, quand il eut constaté l'état de notre santé et se fut assuré que nous ne cachions pas des rats vivants dans le snack. Je lui demandai à tout point la signification de ce drapeau. « Oh, c'est Darling !» répondit-il. Alors Darling, Ernest Darling, hissant son pavillon rouge, annonciateur de la fraternité humaine, nous héla. « Hello Jack ! Hello Charmian !» Quant à force de rame, l'homme se fut suffisamment rapproché de nous, je reconnus en lui le prophète basané des montagnes de Piémont. Ce dieu du soleil au palais écarlate enjamba la vis et déposa devant nous les présents d'Arcadie dont il avait les mains claires. Un flacon de miel, un panier tissé de feuillage et rempli de fruits d'or, mangue, banane, ananas, citron et orange, produits inestimables de la terre et du soleil. Voilà comment, sous le ciel austral, je rencontrai une fois de plus Darling, l'homme de la nature. Tahiti est un des plus merveilleux sites du monde, gâté malheureusement par une engeance d'imposteurs, de menteurs et de voleurs. On y compte certes un nombre respectable d'honnêtes gens, mais en raison de la flétrissure jetée sur la beauté de ce pays par la vermine humaine qui l'infeste, je préfère m'arrêter ici et vous parler plutôt de l'homme de la nature. Lui au moins est rafraîchissant et sain. Son esprit demeure inoffensif, sauf peut-être aux yeux d'un capitaliste vorace et pillard. Que représente donc ce drapeau rouge, lui demandai-je. Le socialisme, bien sûr. Ah, mais je sais. Mais que signifie-t-il entre vos mains? Eh bien, que j'ai découvert la vraie formule du bonheur. Et vous cherchez à la répondre à Tahiti? Ah oui, me répondit-il simplement. Je découvris plus tard qu'il en était persuadé. Après avoir jeté l'ancre, nous descendîmes dans une petite chaloupe et nous nous dirigeâmes vers la terre. L'homme de la nature nous accompagnait. Ça y est, pensais-je, me voilà condamné à subir la société de ce raseur nuit et jour jusqu'à notre départ. De ma vie, je ne m'étais aussi grossièrement trompé sur les apparences. Je louais une maison, m'y installais pour travailler, mais pas une fois, l'homme de la nature me força la porte. Il attendait une invitation. Pendant ce temps, il dévalisait la bibliothèque du snack, captivé par la quantité de volumes scientifiques, et scandalisé, je l'apprends plus tard, à la vue du nombre incroyable de romans. L'homme de la nature ne gaspille pas son temps à lire des ouvrages d'imagination. Après une semaine pris de remords, je le conviai à dîner dans un des hôtels de la ville. Contre son habitude, il arriva, l'air compassé et mal à l'aise dans une veste de coton. Lorsque je lui priai de l'enlever, son visage rayonna de joie et de gratitude. Il me révéla de la taille aux épaules, sa peau dorée comme le soleil, et recouverte seulement d'un morceau de filet de pêche aux fils rudes et aux larges mailles. Un pavé écarlate complétait son costume. Je liai réellement connaissance avec lui ce soir-là, et à la fin de mon long séjour à Tahiti, nous étions devenus amis. Alors vous écrivez des livres ? Me demanda-t-il un jour que, là et en sueur, j'achevais ma tâche matinale. Eh bien, moi aussi, j'en écris. Chut, pensais-je, le voilà qui vient m'assommer avec ses efforts de primitif. Mon âme se révoltait, je n'étais pas venu jusque dans les mers du Sud pour servir d'agent littéraire. Voici le livre que j'écris, expliqua-t-il en se donnant un coup de poing qui résonna dans sa poitrine. Le gorille de la jungle africaine se frappe ainsi sur la poitrine et le bruit se répercute à un demi-mille de distance. Un excellent coffre, dis-je, saisi d'admiration. Même un gorille en crèverait de jalousie. Quelque temps plus tard, j'appris les détails du livre magnifique dont Ernest Darling se piquait d'être l'auteur. 12 années auparavant, on le croyait aux portes de la mort. Il pesait seulement 90 livres et avait à peine la force de parler. Les médecins et son père, praticien lui-même, abandonnant tout espoir de le sauver, le firent examiner par de savants professeurs qui le condamnèrent également. L'excès d'études, tout en exerçant sa profession d'instituteur, il suivait des cours à l'université, et 2 attaques successives de pneumonie étaient causes de ce désastre. Tous les jours, il s'affaiblissait davantage. Il ne tirait aucun profit des aliments pourtant substantiels qu'on lui donnait, ni les cachets, ni les poudres ne lui facilitaient la digestion. Au physique comme au moral, il était devenu une véritable épave. Il ne pouvait plus supporter les médicaments. La société des hommes exaspérée, ainsi que les soins dont on l'entourait sans cesse. Il finit par se persuader que mourir pour mourir, mieux valait terminer sa vie en plein air, loin des tracas et de l'obsédante présence des civilisés. Peu à peu, s'insinuant en lui, l'idée qu'il recouvrerait peut-être la santé en se libérant des nourritures trop lourdes, des médicaments et des gens qui, avec les meilleures intentions du monde, le rendaient fou furieux. C'est ainsi qu'Ernest Darling, qui ne possédait plus qu'un souffle de vie, était un véritable squelette ambulant, tourna le dos aux hommes et à leurs habitations, et, se traînant tant bien que mal, alla se réfugier dans la forêt à 5 milles de la ville de Portland, dans l'Oregon. Bien entendu, on le traita de toqué. Seul un fou était capable de tromper ainsi la mort. Cependant, Ernest Darling découvrit dans la brousse ce qu'il cherchait depuis si longtemps, la tranquillité. Personne ne l'obligeait à manger des beefsteaks et des côtelettes de porc. Nul médecin ne déchirait ses nerfs épuisés en lui tâtant le pouls, ni ne tourmentait son malheureux estomac avec des cachets et des poudres. Il ressentit un immense soulagement. Il se baignait aux rayons du soleil, merveilleux élixir, tonique, qu'il finit par réclamer par tous ses pores. Il se dépouilla de ses vêtements, continua cette cure solaire, et pour la première fois depuis de longs mois de souffrance, se sentit beaucoup mieux. Tout seul dans cette brousse, il découvrit le remède efficace et appliqua séance tenante. Se débarrassant de ses vêtements, il se mit à sauter et à gambader partout. Il courut à quatre pattes, grimpa aux arbres. Bref, il pratiqua tous les sports de plein air en se rôtissant continuellement la peau au soleil. Il imita les animaux. Il se construisit un nid de feuilles d'herbes sèches, le recouvrit d'écorce pour le protéger des premières pluies d'automne. Voici un superbe exercice, me confia-t-il en battant violemment des bras contre ses flancs. Je l'ai appris en regardant le coq chanter. Pendant 3 mois, il mena cette existence primitive, puis les pluies torrentielles le ramenèrent vers les habitations humaines. Il était encore trop fragile avec ses 90 livres et après ses 2 attaques de pneumonie pour supporter impunément toute la saison froide dans les forêts de l'Oregon. Le résultat était déjà concluant, mais il lui fallait regagner le foyer paternel. Aux pièces confinées, où ses poumons réclamèrent l'air pur à corps et à cri. Une 3e attaque de pneumonie se déclara et ses forces diminuèrent encore plus qu'auparavant. Son cerveau s'affaiblit, il resta allongé comme un cadavre, trop fatigué pour parler, trop énervé pour écouter la conversation d'autrui. Le seul acte de volonté dont il fut capable était de se boucher résolument les oreilles. On manda le grand médecin, spécialiste de maladies mentales, ils diagnostiquèrent la folie et lui donnèrent seulement 1 mois à vivre. Un de ces fameux experts l'envoya en traitement dans un sanatorium du Mont Tabor. Quand les médecins de cet établissement eurent reconnu que le malade était inoffensif, on le laissa agir à sa guise. Délivré de tout régime spécial, Darling continua de se nourrir de fruits et de noisettes, d'huile d'olive, de beurre végétal et de banane. À mesure qu'il recouvrait la santé, il prit la ferme résolution de vivre désormais à sa fantaisie. Comme l'hiver en Oregon n'offre aucun attrait à celui qui désire retourner à la nature, Darling se mit en quête d'un climat plus favorable. Il enfourcha sa bécane et partit pour les terres du Sud. L'université de Stanford le garda pendant 1 année. Il continua ses études, suivit des conférences dans un accoutrement aussi sommaire que le permettaient les règlements, et appliqua ainsi, autant que possible, les principes qu'il ramenait du pays des écureuils. Il aimait surtout gravir les montagnes derrière l'université, et là, dépouillé de tout vêtement, il s'allongeait sur l'herbe, un livre à la main, et s'imprégnait de soleil en même temps que de science. Mais les hivers rigoureux sévissent également dans la Californie centrale, et l'homme de la nature, toujours à la recherche d'un climat idéal, s'en fut ailleurs. Il tâta de Los Angeles et de la Californie du Sud. Arrêté plusieurs fois, il fut traduit devant des médecins alienistes, car en vérité son mode de vie ne cadrait nullement avec celui de ses semblables. Il essaya Hawaï. Les autorités de ce pays, n'ayant pu le déclarer fou, lui donnèrent le choix, la déportation ou 1 an d'emprisonnement. Or, la prison équivalait à la mort pour l'homme de la nature, qui prospère seulement sous les rayons du soleil divin. D'autre part, on ne saurait blâmer les juges hawaïens. Darling était un citoyen indésirable, cela ne fait aucun doute. On ne se met soi-même au banc de la société dès qu'on ose afficher des opinions contraires à celles de la majorité. Par sa philosophie de la vie simple, Darling scandalisa à tel point les autorités hawaïennes que celles-ci ne pouvaient que le condamner. Chassé d'Hawaï, Darling repartit en quête d'un ciel clément sous lequel on tolérerait au moins sa présence. Il le trouva à Tahiti, l'Éden des Édènes. Voilà comment, suivant ses dires, il a écrit les plus belles pages de son livre. Il ne porte qu'un pagne et une chemise sans manches fabriquée avec du fil à poisson. Tout nu, il pèse 165 livres. Il jouit maintenant d'une santé parfaite. Sa vue n'a guère menacée et redevenue excellente. Ses poumons, délabrés par trois pneumonies successives, n'ont jamais été aussi robustes. Quand le gorille se frappe la poitrine dans la jungle africaine, l'écho se répercute à un demi-mille de distance, dit-il soudain, et là-dessus, il se mit à battre du tambour sur sa poitrine, à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Un jour, il remarqua des grandes bosses pendues au mur et ses yeux brillèrent de convoitise. Vous boxez, lui demandai-je. Je donnais des leçons à Stanford, répondit-il. Là-dessus, nous nous déshabillâmes et enfilâmes les gants. Bam ! Un long bras de gorille se détendit brusquement et la main gantée s'appliqua sur mon nez. Bim ! D'accrocher la tête, il faillit me renverser. J'en gardai une bosse pendant une semaine. J'esquivai un direct du gauche et lui envoyai un crochet à l'estomac. Ce fut un coup terrible, appuyé de tout le poids de mon corps qui avait heurté le sien au moment où il plongeait en avant. Je m'attendais à le voir s'écrouler par terre, mais non. Au lieu de cela, il releva la tête, radieux, et me félicita de mon adresse. La seconde après, je me mettais en garde, essayant de parer une avalanche de crochets et de Ensuite, je guettais le moment propice et atteignis mon adversaire au plexus solaire. J'avais enfin trouvé le bon endroit. L'homme de la nature laissa tomber les bras et, pantelant, s'assit brusquement sur le sol. Ça va aller, me dit-il, attendez un instant. Au bout de 30 secondes, il était sur pied et me rendait l'appareil. Haletant, je laissais moi aussi tomber les bras et m'étaler aussi rapidement que lui tout à l'heure. Tout cela démontre que cet homme ne ressemblait plus du tout au pauvre diable qui pesait voilà 8 ans 90 livres et qui, abandonné par les médecins et les aliénistes, gisait à demi-mort dans une chambre à porte-plainte, Oregon. Le livre écrit par Ernest Darling était somme toute un bon livre et la reliure excellente. Dès son débarquement à Haïti, Darling se mit en quête d'un lopin de terre gratuit pour y cultiver ses fruits favoris. Mais on ne trouvait pour ainsi dire pas de terrain bon marché et l'homme de la nature ne roulait pas sur l'or. Pendant des semaines, il gravit les collines escarpées, puis erra plus haut sur les montagnes et finit par découvrir entre un groupe de petits canyons, environ 80 acres de jungle et de brousse qui, apparemment, n'appartenaient à personne. Les fonctionnaires du gouvernement leur disaient que s'ils voulaient défricher cette terre et la cultiver pendant 30 ans, ils en deviendraient propriétaires. Ils s'appelaient aussitôt à la besogne, et quelle besogne! Jamais on n'avait songé à fertiliser un terrain à une hauteur aussi prodigieuse. De cette jungle, la vue sur Papette et sur la mer était magnifique, mais la perspective peu encourageante. Darling passa des semaines entières à construire un chemin pour rendre la plantation accessible. Petit à petit, il vint à bout des difficultés, il érigea une hutte en herbe sèche. Sur ce vol volcanique si fertile, où il eut à se débattre avec la jungle et les animaux sauvages, croissaient alors 500 cocotiers, autant de papayers, 300 manguiers, de nombreux arbres à pain et mains légumes. Il élabora ensuite un ingénieux système d'irrigation. Il détourna l'écoulement des eaux des collines dans les canyons et capta les eaux de canyon en canyon au moyen de fossés creusés parallèlement à des altitudes différentes. Ces gorges étroites devinrent de véritables jardins botaniques. Sur les flancs arides des collines où jadis le soleil brûlant avait desséché la jungle, on voyait maintenant s'épanouir quantité d'arbres, d'arbustes et de fleurs. Non seulement l'homme de la nature pourvoyait ses propres besoins, mais devenu agriculteur prospère, il vendait à présent ses produits aux citadins de Papette. On découvrit alors que cette terre, déclarée libre par le gouvernement, avait bel et bien un propriétaire, d'après des actes notariés, des plans, etc., déposés dans les archives cadastrales de la ville. Ainsi, tout ce formidable travail risquait d'être perdu pour Darling. Cette friche était absolument sans valeur quand il s'y était installé, et celui qui la possédait, un riche propriétaire terrien, ignorait à quel point l'homme de la nature l'avait rendu fertile. On convint d'un prix équitable, et enfin l'acte de vente fut officiellement signé en faveur de parler. Un soir, en le voyant aller, je lui demandais combien d'heures de sommeil il s'accordait. 7 heures. Mais d'ici à 10 ans, je ne dormirai que 6 heures. Et dans 20 ans, 5 heures seulement. Tous les 10 ans, je regagnerai 1 heure de sommeil par nuit. Ah oui, on sort carré à l'âge de 100 ans, vous ne dormirez plus du tout. Bah, vous y êtes parfaitement. Quand je serai centenaire, je n'aurai plus besoin de sommeil. En outre, je vivrai l'air pur. Mais il existe, vous le savez, des plantes qui se nourrissent de vent. Mais un homme a-t-il déjà accompli ce tour de force? Il secoua la tête. Ah, je n'ai jamais entendu parler. C'est seulement encore une de mes théories. C'est alimenté avec du vent. Ce serait magnifique, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, la chose semble impossible. Et elle l'est très vraisemblablement. Oh, je ne manque pas à son pratique. Jamais je ne perds de vue le présent. Quand je plane dans l'avenir, je laisse toujours traîner un bout de fil afin de reconnaître mon chemin. Où que vous jetiez l'encre, vous obtiendrez des résultats si toutefois vous avez l'âme bien trempée. Vous voyez, j'ai toujours cherché la santé physique et morale, car pour moi les deux vont de pair. Levez l'encre, voilà ce qui m'a sauvé. Aucun obstacle ne m'a jamais retenu. Sur mon lit de mort, j'ai déjoué les médecins, leur science, et je me suis décidé à partir vers la brousse. Quand mes forces furent revenues, j'ai commencé à prêcher par exemple. J'ai encouragé hommes et femmes à vivre selon la nature, mais ils sont demeurés sourds à mon appel. Sur le steamer qui m'a été un quartier maître, m'a exposé les doctrines du socialisme. Il m'a démontré qu'un système économique équitable était nécessaire pour que l'humanité puisse vivre conformément aux lois naturelles. Une fois de plus, j'ai levé l'ancre. Je consacre actuellement mes efforts à l'établissement d'une république coopérative. Une fois ce rêve réalisé, il deviendra facile aux hommes de retourner à la nature. Ernest Darwin, adorateur du soleil et homme de la nature, parfois, je t'envie malgré moi avec ton existence insouciante. En ce moment même, je te revois en train de monter les marches de la véranda en te livrant à d'inimaginables cabrioles. Puis tu m'apparais, les cheveux ruisselants après ton plongeon dans l'eau salée, tes yeux étincelles, ton corps édoré par le soleil. J'entends résonner ta cage thoracique et ce démoniaque battement de tambour accompagnant ta chanson. Quand le corps se frappe au péril dans la jungle africaine, une course repercute à 1000 de distance. Et mes yeux te reverront toujours, comme ils t'ont vu une dernière fois le jour de notre départ. Lorsque le snark, piquant du nez, une fois de plus gagna le large parmi les récifs. J'adressai un salut de la main aux amis demeurés sur le rivage. Mais mon affectueux souvenir, elle est surtout vers toi, vieux bronze.